Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre 8e podcast consacré aujourd'hui au Vent se lève, le dernier film de Miyazaki Hayao qui sortira le 22 janvier au cinéma. Et pour parler du Vent se lève, nous avons ce soir l'honneur d'accueillir Justin Couedi pour son premier podcast istasien. Comment ça va, Justin ?
Ça va, forme l'honneur carrément. Oui, ça va.
Ah oui, ça fait extrêmement plaisir. Un cinéphile stakhanoïste, donc on peut retrouver tes critiques sur Istasia et aussi sur le blog du cinéphile stakhanoïste que tu tiens tous les jours, une chronique par jour.
On essaye, quotidiennement, une petite critique sur un petit visionnage de la veille. C'est de tenir ça à jour.
Et nous avons bien sûr les habituels Jérémy. Je vais faire une énumération après, donc avec les habituels Jérémy, Nicolas et Yannick qui sont tous là, mais je vais vous laisser vous dire bonjour à tout le monde. Les incontournables. Salut Jérémy.
Salut à tous.
Salut Nicolas.
Salut.
Et cette voix qui vient du tréfonds de mon ordinateur. Salut Yannick, comment vas-tu ?
Bah, ça va, salut tout le monde.
Donc le vent se lève, dont nous allons parler pendant ce podcast, avant de revenir sur toute la carrière ou une partie de la carrière et sur les thématiques de Miyazaki, est une fresque biographique qui relate le parcours de Jiro Horikoshi, ingénieur de génie, l'inventeur de l'avion Zéro, des années 20 à la Seconde Guerre mondiale. Il épouse le destin d'un pays et de ses drames, du grand séisme de Kanto en 1923 à l'entrée en guerre du Japon. 6 ans après Ponyo, c'est enfin le retour de Miyazaki pour apparemment son dernier film. Et on va faire un premier tour de table pour savoir s'il vous a convaincu. Qui veut commencer ?
On va passer du moins convaincu au plus convaincu. On va faire Justin.
Oui, alors j'étais en partie, donc j'étais mitigé en fait, parce que c'est au niveau thématique, c'est peut-être son plus intéressant, celui le plus personnel, où on retrouve pas mal d'éléments de sa vie. Il y a un mimétisme entre l'ingénieur et puis lui-même, l'équipe d'ingénieurs qui l'accompagne, et puis le studio Ghibli, donc il y a un parallèle qui se fait. Et puis il y a d'autres éléments, genre la femme du héros qui est tuberculeuse, sa mère aussi était tuberculeuse, même les avions Zéro qu'il fabrique, en fait, c'était sa famille, je crois la boîte à son oncle, qui fabriquait les cockpits ou un élément des Zéro qu'on voit dans le film, donc il y a pas mal de mimétisme à faire, puis même le côté s'abandonner dans sa fonction, et puis du coup abandonner un peu sa famille, tout donner pour le travail en équipe, pour tout abandonner à sa fonction en fait, et puis on retrouve ça, c'est en quelque sorte le double de Miyazaki, le personnage principal, quoi. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, j'étais plus mitigé sur l'émotion du film, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de retenue, ça manque du lyrisme habituel, mais c'est volontaire, quoi. Il a voulu privilégier le côté historique, réalisme, et du coup, ça, c'est peut-être un peu froid par rapport à d'autres de ses films qui sont plus flamboyants, on va dire.
Alors, est-ce que ce côté, on va dire, crépusculaire, quasiment testamentaire du film, Jérémy, t'as aussi un peu gêné par rapport à ce que t'attendais de l'œuvre de Miyazaki ?
Bah, en fait, ouais, quand je suis sorti de la projo, en fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, putain, ça y est, c'est ça le dernier film de Miyazaki, ça manque quand même de. Bah, en fait, moi, je voulais vraiment être emporté, je voulais voler avec les avions, etc. Et il y a les séquences de rêve où ça approche un peu de ce que je recherchais dans ce film-là, mais finalement, ouais, ça manquait de souffle, comme disait Justin, ça manquait de lyrisme un peu, je me suis senti un peu. Après, c'est peut-être, voilà, il y avait une projo un peu spéciale, j'étais sur mon strapontin, j'avais mal aux fesses, j'étais pas en forme, mais.
On a rarement vu des projos presse aussi pleines que pour.
Voilà,
pour
c'est ça.
En soirée en plus.
Voilà. Et, donc, mais après, voilà, après quelques jours, je pensais souvent au film, en fait. Voilà, le film est resté, m'a hanté un peu quelques jours après la projection. Et je me dis quand même qu'il y a beaucoup de. Ouais, y a des belles choses, voilà, tout ce qui parle, tout ce mimétisme, quoi, tu disais,
Ouais, ça reste une belle conclusion quand même, même s'il y a des
Voilà.
réserves,
C'est
c'est quand
ça, c'est ce
même.
côté un peu, voilà, désenchanté, plein de regrets, qui touche finalement, mais moi qui m'a touché après, en fait. Et j'aurais bien voulu être touché pendant, mais j'ai été touché après, en fait.
Et Nicolas, tu partages
Bah,
cet avis?
Justin a pas mal résumé ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, tout ce parallèle entre l'histoire de cet ingénieur et puis la vie de Miyazaki. Et bah moi, en fait, moi j'ai beaucoup aimé cette retenue qu'on retrouve pendant tout le film. C'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Miyazaki, mais moi j'étais assez touché, en fait, par la vision finale, un peu cette conclusion, justement, et qui répond un peu à tout ce qu'il met en avant dans le film. C'est cette admiration pour tout ce qui est engin, avion, engin volant, tout ça, qu'on retrouve dans toute sa filmographie, qui se retrouve un peu résumé ici, de façon un peu plus réaliste, forcément. Et puis ce désenchantement et enfin, on sait que c'est un pacifiste, Miyazaki, et on voit qu'il y a, voilà, il y a une espèce de paradoxe entre l'admiration pour ces avions, ces constructions qui deviennent après des machines de guerre, et on voit qu'il le regrette profondément que ça devienne ça, en fait, à travers ce personnage. Et ça m'a beaucoup touché.
Est-ce que c'est pas un peu une des limites du film? Parce qu'on sent effectivement, il y a cette identification qui est très forte entre le parcours de Miyazaki, la création artistique d'un côté, et le parcours de cet ingénieur et la fabrication des avions, qui va jusqu'à prendre. Donc, il a demandé à Hideaki Anno de faire la voix du personnage qui travaille dans l'animation, qui resserre encore plus cette métaphore de la création de l'avion comme la création artistique. Et le parcours personnel de Miyazaki, qui fait un autoportrait dans le personnage de Jiro. Mais est-ce que la limite du film n'est pas là-dedans? C'est-à-dire que on sent que le personnage ne s'implique pas dans le monde contemporain, ou en tout cas dans ce à quoi vont servir ces avions. Et le désenchantement du film et du personnage naît aussi de ça. Alors que finalement, on se dit que Miyazaki, lui, n'est pas touché par ce même désenchantement dans la mesure où il n'a que créé des œuvres artistiques. Jamais ces films n'ont servi à faire la guerre. Donc est-ce que le parallélisme ne s'arrête pas un peu là aussi?
Non, parce qu'en fait, à mon opinion, c'est vraiment le fait que la création, il a créé, mais finalement, il a l'impression que tout est parti un peu dans le vent, en fait, en quelque sorte. Et c'est ce côté-là aussi qui est assez touchant, il regarde toute son œuvre et il se dit peut-être que bah, peut-être que j'ai perdu mon temps, peut-être
Pour y
que.
réfléchir à ce qu'il a sacrifié
Exactement, ouais. Et j'ai l'impression qu'il se dit à la fin, peut-être que j'aurais dû rester avec ma famille, peut-être que j'aurais dû moins travailler à ce moment-là, et que ma vie elle aurait été différente. Est-ce que mon œuvre va rester? Voilà, est-ce que je suis un génie? Est-ce que tout ce culte autour de moi, est-ce que c'est justifié? Il y a tous ces doutes-là qui ressortent là-dedans, et je trouve ça vachement intéressant, quoi.
Surtout, il y a un point aussi là-dessus, c'est le côté, vu qu'on n'est pas, l'histoire d'amour fonctionne pas complètement, enfin, on n'arrive pas à être aussi touché que. Alors que c'est la plus charnelle de toute sa film, et pourtant c'est peut-être la moins touchante finalement. Peut-être c'est un côté, vu que ça le touchait de près, il n'a pas osé se mettre à nu complètement par rapport à d'autres films, comme je disais sur sa mère qui était tuberculeuse, par exemple dans Mon voisin Totoro. C'est la même chose, en fait, c'est aussi biographique, c'est la mère qui n'est pas là pour les deux petites filles qui est au sanatorium, enfin c'est plus ou moins dit. Et là, alors qu'il arrivait à. Et je crois qu'il avait changé à l'époque, j'avais entendu ça, qu'il avait changé, ça devait être deux petits garçons, ça devait être deux frères. Mais vu que ça le touchait de trop près, il en a fait deux petites filles. Et puis là, du coup, c'était beaucoup plus personnel en se mettant à la place du héros là. Et puis du coup, il n'a pas osé peut-être. Se
Mais
mettre complètement à nu.
il y a une sorte de paradoxe dans la pudeur qu'il peut y avoir dans le film,
Ouais.
et d'un autre côté dans le fait de vouloir aussi faire une œuvre testamentaire dans
Ouais.
laquelle il se livre complètement.
Ouais. Mais du coup, ça a l'impression que ça l'a un peu cloué au sol, le côté biographique de faire autant de mimétisme avec lui-même, l'impression que ça l'a un peu retenu, un peu trop de retenue en fait.
Non, mais je pense que cette histoire d'amour, c'est voulu, en fait, le fait qu'elle soit complètement en dehors de l'histoire, en fait, en dehors de sa vie, et que c'est au moment où elle meurt finalement que elle est là, et, parce que même il y a les scènes où il lui tient la main et que il lui tient la main et qu'après il fume devant elle alors qu'elle est tuberculeuse quoi, et limite il quoi il c'est un plaisir égoïste en fait, et il continue dans ce côté méta sans arrêt, et mais c'est vrai que qu'on attendait peut-être un peu plus, surtout que c'est super charnel quoi, on voit c'est explicite,
bah c'est le plus, parce que d'habitude c'est quand même assez chaste,
c'est chaste
L'exhibli, c'est quand même dans l'ensemble très très chaste. Je sais pas si t'as un bisou même dans Mononoke, t'as pas, ça va pas plus loin que ça.
Mononoke est super violent par contre, c'est son plus violent, mais c'est vrai qu'on y c'est chaste. Quoi.
Ça arrive à être beaucoup plus intense tout en étant chaste dans d'autres films que là où.
Alors que là, il fait l'amour à sa femme explicitement. Il y a le bisou, tout ça.
Beaucoup plus ouvertement
romantique. Et pourtant, tu sens qu'il y a une distance, quoi. Tu sens qu'ils sont pas. Qu'il y a quelque chose qui les sépare vraiment.
C'est beaucoup plus ouvertement romantique, et pourtant, c'est peut-être l'histoire d'amour la moins touchante
de cette film. Est-ce qu'il ne change pas de public aussi, c'est peut-être son seul film qui n'a pas un public directement enfantin ou adolescent, on va dire, et qui s'adresse directement par ses thématiques, et ça, pas la mise en scène, mais en tout cas par ses thématiques à un public adulte.
Bah, Porco Rosso, quand même, c'était pas spécialement gamin, c'est quand même...
Oui, c'était un cochon, quand même, il y avait un joli cochon, il était mignon.
Oui, mais à part ça, l'histoire, est quand même réaliste.
C'était se rapproche, parce qu'ils sont ancrés aussi entre les deux guerres.
T'as juste une scène de bagarre un peu rigolote, où ça part un peu à la Sherlock Holmes, mais sinon, bon, ça reste quand même...
Il y a une fantaisie, quand même, dans Porco Rosso, il y a un truc...
Oui, il y a une petite légèreté
que t'as pas là. Oui, il y a les pirates, ils sont marrants, quoi.
C'est vrai qu'il y a une petite légèreté que t'as pas du tout, là, c'est vraiment...
Là, il y a du voilà, il y a des larmes, il y a du sang.
Et en tout cas, généralement, il s'adresse, même quand il s'adresse aux adultes dans Porco Rosso, il s'adresse à ce qu'il peut y avoir d'enfantin chez les adultes, avec un côté très fantaisiste, etc. Là, c'est pas du tout le cas, il est vraiment dans... alors, à la fois dans un réalisme, et à la fois dans une thématique adulte, et il prend l'histoire du Japon vraiment à bras le corps. Enfin, on s'amuse pas beaucoup finalement dans le film.
C'est peut-être ça qui manque.
Par exemple, Mononoke, où t'as un univers fantasy et tout, mais c'est quand même très très sombre, c'est quasi aussi pessimiste que Le Vent se lève, mais pourtant...
Il y a une belle fin quand même dans Mononoke.
Oui, c'est vrai que c'est flamboyant.
Voilà. Alors que là, ça finit quand même sur la mort de sa femme, sur la vision d'horreur... Non, mais de toute façon, ils les ont...
Déjà, c'est le seul qui finit un peu mal. Ouais, parce que c'est
la vision cauchemardesque des avions. Voilà, le mec qui se rend compte qu'il a construit des avions qui ont servi aux kamikazes. Quoi.
Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est toute cette vision un peu apocalyptique qu'on retrouve parsemée, par exemple, avec le tremblement de terre au début. Puis justement, cette grosse vision où tu vois tous les avions qu'il a fait construire. Une espèce de cimetière d'avions à
perte de vue. Il y a la mort qui traverse.
Il y a la mort partout. C'est une fin assez fataliste quand même. On a l'impression qu'il a quand même il est pas très serein contre notre futur, quoi. J'ai l'impression que ça parle de la guerre, mais j'ai l'impression que les espèces de visions post-apocalyptiques se rapportent à ce qui peut nous arriver nous aujourd'hui, et par rapport au Japon, ou même par rapport au reste du monde, quoi.
D'autant qu'il y a deux régimes un peu de catastrophe dans le film. La première scène, qui est un tremblement de terre, on retrouve le côté presque animiste de Miyazaki dans cette scène, c'est-à-dire c'est la terre qui prend vie. On a l'impression, on ne sait pas qu'un tremblement de terre arrive, on a l'impression que tout d'un coup le sol s'anime et a quelque chose de pratiquement animal. Donc il filme quand même une tragédie, mais il y a ce côté finalement il continue à filmer la nature. Le dernier acte du film est beaucoup plus tragique, parce que là c'est la destruction qui est purement humaine. Donc il n'y a même pas ce côté, effectivement, la nature, la vie continue malgré la destruction que la nature apporte. À la fin, on est uniquement dans la destruction humaine. Et c'est vrai qu'il finit comme ça. Et effectivement, il y a ce côté très, très pessimiste qui se dégage du film, à la fois parce qu'il porte un regard rétrospectif qui n'est pas du tout empreint de nostalgie, mais de regret sur le passé et sur l'histoire du Japon qu'il critique, et à la fois parce que l'avenir est pas du tout rose donc pour le Japon. Néanmoins, on reste quand même dans un régime de rêve à plusieurs moments du film, dans lesquels le fantasme des personnages et les rêves prennent vie. Et là, on est dans une animation beaucoup plus colorée. La scène finale aussi, qui est très tragique, hein, et finalement c'est un univers de rêve
qui se révèle également.
Ça boucle un peu avec le début où il rencontre, c'est le créateur, l'Italien, l'ingénieur italien qui est son idole. Donc ça boucle un peu avec la dernière rencontre, la fascination qu'il a pour lui et puis pour les avions. Donc là, ça conclut un peu cette idée-là, en fait.
Ouais, mais c'est un peu triste, quoi, parce que c'est vraiment c'est un mec, c'est l'histoire d'un mec qui s'enferme dans ses rêves quand même, quoi. Donc c'est il vit mieux dans son quand il dort, quoi, et c'est assez triste, quoi.
Et surtout, les rêves ont ce caractère assez tragique, c'est-à-dire qu'on est au début du film, effectivement il y a un mouvement qui se crée et il faut réaliser ces avions parce que c'est réalisé un rêve. On arrive à la fin de sa vie, finalement on n'est plus que dans la destruction et dans le fait que finalement ces rêves n'ont pas eu vraiment de sens. Il le dit finalement, les rêves ce sont les avions et il n'y en a aucun qui est revenu, donc ils ont tous semé la destruction et ont été détruits. Donc c'est vrai qu'il en reste finalement rien.
Et puis c'est l'histoire de destin contrarié, parce que pendant tout le film, ça commence par un gamin qui veut devenir pilote et qui peut pas parce qu'il est myope et qui se rabat sur autre chose parce que c'est un moyen de toucher du doigt un peu son rêve. Et à chaque fois, ça sera la même chose pour tout le monde et pour lui tout au long de sa vie et du film. Donc c'est vraiment, c'est assez douloureux, en fait, comme film, finalement. C'est pas drôle, en fait.
Et puis, il n'y a pas cet équilibre que tu as dans ces autres films, où tu as le côté les machines, où tu as le côté positif et le côté négatif. Ou par exemple, dans le château dans le ciel, où tu avais le robot, le même modèle de robot qui peut détruire, raser quasiment une armée, et puis peut-être une demi-heure plus tard, tu le vois dans la forteresse qui soigne des plantes, qui soigne la faune et la flore. Donc tu avais toujours cet équilibre-là dans chaque film, même dans Princesse Mononoke, où tu as Dame Eboshi qui rase la forêt pour survivre. Mais bon, tu as le côté positif quand tu vois la communauté de la cité qui est joyeuse, qui vit bien, qui est quand même en harmonie malgré tout. Donc cet équilibre-là toujours entre les deux, alors que là, bon, ça garde que le côté vraiment néfaste de la civilisation, des machines.
Je crois qu'au départ, il ne voulait pas le faire, en fait, le film. Parce que c'est un manga, au départ, il l'avait fait sous forme de manga. Et il avait dit, parce que Miyazaki... Ouais, voilà, c'est un projet personnel, une distraction, comme il dit souvent. Et je crois que lui, il voulait pas le faire justement parce que c'était pas assez adapté pour les enfants et que lui, dans son esprit, c'est une animation, même si, bon, des fois, ça parle beaucoup à l'adulte, t'as toujours comme cible les enfants. Et il l'avait dit lui-même au départ, il voulait pas du tout le faire parce que c'était pas assez adapté pour les enfants. Donc.
D'ailleurs, il se frittait pas mal. Il avait conscience de ça, oui. Pas mal avec Takahata à l'époque, quand il faisait Totoro et le tombeau des Lucioles en même temps, apparemment ça chauffait un peu entre eux, parce que Miyazaki ne comprenait pas que Takahata fasse un sujet aussi sérieux. Parce que lui, il faut toujours, c'est vers le grand public, vers les enfants, même quand c'est sombre, il faut que ça soit du merveilleux. Donc là, à l'époque, apparemment.
Il a bien changé, parce que celui-ci, quand même, il se rapproche beaucoup du tombeau des Lucioles, dans le côté désabusé complet. Ouais. Et d'ailleurs, il y a la scène du tremblement de terre qui est super intéressante, parce que il y a la terre qui a le ventre qui gargouille, on l'entend, c'est un peu, et on s'attend à l'irruption du fantastique quelque part, et puis finalement ça vient pas, et là on se dit ça va être black, quoi, ça va être dark, et c'est assez, voilà, il fait comme Takahata, quoi,
c'est moins équilibré, quoi.
C'est vraiment un état des lieux, en fait, de sa vie, de sa carrière de cinéaste. Et puis il s'interroge finalement sur ce film, parce que c'est peut-être pas... comme tu disais tout à l'heure, comment il l'a vécu, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il fasse autre chose à tel moment, voilà. Donc,
Mais bizarrement, Tombeau des Lucioles, t'as quand même le lyrisme qui manque là, quoi. Tu l'as, mais c'est très très sombre, c'est très réaliste, c'est cru, c'est... Je suis dit assez déprimé, mais t'as quand même le lyrisme, les envolées qui m'ont
manqué. Mais c'est peut-être parce que, comme tu disais, c'est peut-être parce que c'est trop centré sur lui et que finalement il a eu cette pudeur de ne pas.
Ouais, ça l'a peut-être un peu trop retenu.
Parce qu'il parle du Japon quand même. Il est aussi super pessimiste sur son pays et sur les choix que son pays a fait dans le passé. Et c'est quand même.
Parce que c'est vrai que tu restes à hauteur d'enfant, ton monde est luché.
Voilà, alors que là, quand il y a le personnage de l'Allemand dans l'hôtel qui parle qui parle de la politique japonaise par rapport à la Chine, etc. Ouais. C'est super critique, quoi. Et pour un Ghibli, c'est assez... pour un Miyazaki, encore plus, quoi. C'est de dire si frontalement, comme ça, si abruptement, quoi. Il le dit directement, quoi. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de merveilleux, il n'y a pas de...
C'est vrai que j'ai ressenti un peu ce côté un peu déceptif du film dont tu parlais, Justin, mais je me demande si c'était pas dû à ce que j'attendais aussi de Miyazaki, c'est-à-dire cet émerveillement qu'on peut ressentir. On n'est pas dans l'émerveillement, justement. On est dans la constatation.
Il est volontairement déceptif, je pense.
Mais bon, tu as les occasions quand même où tu pourrais, les quelques moments où ça pourrait décoller, où quand ils sont à l'hôtel... Quand ils s'amusent à se lancer l'avion en papier.
Ouais, mais c'est ça. C'est pas le propos, en fait. Ouais.
Il y a quelques moments où tu te dis... Voilà,
ça reste une très belle scène, quand même.
Même quand ils se rencontrent, quand ils traversent, ils lui rattrapent son parapluie.
Voilà, c'est magnifique,
t'as des beaux moments.
Mais je pense que, en fait, maintenant qu'on sait de quoi ça parle et comment le film est tourné, peut-être une deuxième vision, justement... Peut-être ça vous fera... Enfin, vous l'apprécierez autrement, quoi.
Absolument, ouais. J'ai l'impression que c'est un film qui peut très bien mûrir dans la carrière de Miyazaki et qui peut apporter des revisions qui peuvent apporter quelque chose au film. Même si, effectivement, je pense que beaucoup de personnes vont être un peu déçues par ce qu'est le film, finalement, par rapport aux attentes d'un film de Miyazaki.
Thématiquement, c'est passionnant. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé être un peu plus emporté... peut-être.
Non, mais est-ce que c'est pas c'est ce qu'on attendait de lui, quoi, vraiment. Je sais pas si on peut vraiment lui imputer ça, quoi. T'as pas fait comme on voulait, alors
c'est ça,
tu vois. C'est un peu un truc que je défends souvent quand les gens critiquent un film sur j'aurais bien voulu que ce mec là meure pas, ou que ça fasse comme ça, ou là c'est vraiment le truc. Et là c'est un peu pareil, on se dit putain, t'aurais pu faire comme ça, Miyazaki, c'était pas cool, quoi. Donc finalement, Yannick,
c'est vrai que c'est quand même bien si pour son dernier film il se démarque complètement de ce qu'il a fait auparavant, quoi. Ça permet de livrer vraiment quelque chose de différent.
Ouais, c'est différent, mais en même temps dans ses thématiques, etc., c'est totalement Miyazaki en plus, donc
Il y a ce côté aussi film somme, dans lequel on retrouve énormément d'éléments, en fait. On peut pratiquement lister les clins d'œil à ces films.
Il y avait la première scène quand t'as le gamin qui rêve, donc c'est le château dans le ciel, quasiment. Ouais. Il voit une forteresse arriver, il a quasiment le même physique que ses gamins. T'as la petite sœur qui ressemble un petit peu, il y a un petit physique à la Chihiro quand même, elle ressemble un petit peu. T'as plein de petits clins d'œil
tout
au long
aussi,
du film, ouais. Comme ça. Mm. Mais c'est pas le fait que j'attendais qu'il fasse c'est pas le
non, on voulait pas les petits clins d'œil au public, bon, ça...
non mais je veux dire, c'est pas le je voulais pas qu'il fasse ce que j'attendais, mais c'est okay. Dans ce qu'il a fait, je trouve qu'il manque quelque chose quand même dans sa vision. Il manque quelque chose. J'ai rien contre qu'il se démarque de ce qu'il a pu faire, mais dans son optique, je trouve qu'il manque un petit quelque chose niveau émotion.
Bon, l'avenir nous dira s'il manque quelque chose au film ou s'il manque quelque chose à notre vision, peut-être. Ouais. Pour l'instant, moi je suis un peu indécis sur les deux, et j'aurais tendance à croire un peu plus comme Jérémy, ouais, que c'est plus de ce côté déceptif qui vient parce qu'on attendait autre chose du film et qui n'est pas là. Mais donc qui n'est pas dans notre vision, finalement.
Surtout qu'il avait l'air de rajeunir au fil des... Parce qu'il avait fait Bon Mononoke qui était assez sombre, mais bon, quand tu vois après Chihiro où il revient du point de vue de... c'était de plus en plus léger, on a l'impression qu'il vieillissait pas, en fait, quoi. Donc, et puis là tu sens qu'il y a tout le poids des gens d'un seul coup en un film.
Justement, on va peut-être revenir sur sur les autres films de Miyazaki. Une dernière question généralement que je pose à Yannick avant, quand on a parlé d'un film, est-ce qu'on t'a donné envie de le voir, Yannick?
Oui, mais là en même temps c'était un peu facile parce que Miyazaki, rien que Miyazaki, ça me donne envie de le voir, donc effectivement, ce que vous mettez en exergue, c'est-à-dire le fait qu'on est moins transporté, etc., ça peut aussi me décevoir. Le dernier film de Miyazaki, j'ai quand même très envie de le voir. Et avec toutes les thématiques dont vous parlez, oui, ça donne vraiment envie de le découvrir.
Très bien. Bon, ça change de Bong Joon-ho et de ce que tu nous avais dit sur le transpersonnage. Vous pouvez aller voir la fin de la première partie du podcast. Et à tout de suite pour la suite.